Biston klack, biston klack, biston klack, nous aimons la chanson française. Biston klack, mais nous détestons les fadaises, qu'elles soient françaises ou javanaises, la balourdise, ça nous défrise. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, se pèle l'apôtre, cette phrase est notre devise. Notre devise, biston klack, biston klack, biston klack, d'accord pour les chanteurs, poètes. Biston klack, né dans le Rhône ou à Perpète, suffit qu'ils mettent nos cœurs en fête. La poésie n'a pas de patrie, tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, ce bel apôtre, voilà notre philosophie. Philosophie, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack.
Bonsoir, notre émission de ce jour est la troisième de cette série de trois émissions consacrées aux résistants Roger Gaget, à qui nous rendons hommage. Roger Gaget est un terrarien, né le 12 février 1923, et donc âgé de 88 ans au moment de cet entretien. Il avait 17 ans en 1940 et il dut subvenir à ses besoins en se mettant à travailler. Mais en novembre 1942, face à l'invasion de la zone sud, sa conscience va lui imposer de se mettre en action contre l'occupant de son pays. Et comme il nous le compte, il a fini par trouver le moyen, avec pas mal de difficultés, comme c'était souvent le cas, de s'engager au maquis, coupant du même coup toute relation avec sa famille et ses amis. À partir de là, sa volonté de se battre fera de lui un combattant du réseau Périclès, et, basé dans le Haut-Jura, il restera un maquisard, combattant clandestin jusqu'à la fin de la guerre, avant de reprendre sa place de citoyen dans la vie civile. Nous évoquons donc son parcours et ses luttes au fil de ces trois émissions. Cette troisième émission est consacrée plus précisément au récit de certains épisodes de la libération en Franche-Comté à fin août 1944 et à ce que fut l'après-guerre pour lui, ainsi qu'au regard qu'il porte aujourd'hui sur toute cette période. Merci de votre attention et bonne écoute.
Jesus.
Donc on arrive à votre... On est toujours à votre épisode champagnol où...
Oui, champagnol.
Vous allez...
Enfin, ma mère est état-major, je vous dis bien, on fait quelques opérations et on tombe sur l'histoire des Ukrainiens. Ce sont des Russes qu'on appelait des Russes blancs. Voilà, il y a un bataillon et ils veulent partir. Ils en ont marre des Boches, ils veulent foutre le camp. Bon, ils partent des Boches. Et je dis l'opération, nous on prend contact avec le capitaine, avec interprète bien sûr. Du moins le commandement de chez nous, la garde prend contact, pas nous directement, et dit voilà, c'est pas compliqué, il faut liquider les 70 types qui vous encadrent, c'était des SS. Et une nuit, faites ça une nuit. Vous les liquidez et vous partez dans la nature, avec vos chevaux, tout. Hein, j'ai appris à monter à cheval avec eux là. Hein, il y avait, je sais pas moi, 60 chevaux. Les chevaux, tout l'armement, canon anti-char, ravitaillement, les vêtements, enfin, tout ce qu'un bataillon peut avoir besoin pour se battre. Et partez, mais ne vous inquiétez pas, dans la forêt, à l'abri. Les Allemands ne rentreront pas dans la forêt. Et nous, on vous récupérera. Petit à petit, on a récupéré tout le monde, parce qu'entre eux, bon, bah oui.
Donc ils sont partis du Valdan, hein, du camp du Valdan.
Du camp du Valdan.
Ils sont partis où, vous souvenez, même ça...
Ben, dans la forêt environnante.
Ouais.
La forêt environnante.
Vous les avez récupérés et emmenés ailleurs?
On les a récupérés, et puis on a monté notre bataillon, hein, même en pleine nature. En pleine nature, et puis on a vécu ainsi dans les différents villages... alentour, hein, et on partait en opération avec eux.
Les Allemands les ont pas
cherchés? Ben, non, c'était une période, c'était vraiment le médecin. Un jour c'était les Boches, un jour c'était nous. C'était une période véritablement, de temps en temps on voyait un tigre qui s'amenait, qui nettoyait, de temps en temps ça partait, de temps en temps c'était nous, on tombait sur un camion allemand. On a tombé d'ailleurs deux fois sur des camions allemands. Et là, on a pu faire notre travail correctement, quoi. On les a assaisonnés, hein, complètement anéantis, même. Hein, avec ces Russes. Parce que il y avait des gars très... Et puis très entraînés. C'était des gars qui avaient fait déjà la guerre chez les Russes et qui avaient fait la guerre chez les Allemands. Hein, c'était pas des trophions, hein, débarqués. Hein. Hein, et puis ils avaient un encadrement qui était très très costaud, hein. Seulement costaud. Alors bon, on est arrivé là jusqu'à un moment donné où les Allemands fuient cette partie et qu'on peut monter un front de Damblin à Pont-Droine. Une ligne de front de 14 km. On avait quand même récupéré une petite partie de l'armée française, il y avait le 4e RTT et le 3e Spahi algérien. Avec ça, on tenait 14 km quand même. Hein, c'était...
Ça, c'est la jonction. Après la libération de Pontarlier.
Oui, bien sûr, voilà. Après Pontarlier, ça. Cette fois, après Pontarlier, on était au sud de Montbéliard, déjà.
Ah, sur la période Pontarlier-Mout, vous avez quel souvenir Je crois que Pontarlier a été libéré à 6 heures du matin.
Oui.
Vous étiez dans le...
Moi, je n'étais pas dans le truc de tête de libération. J'étais pas dans cette compagnie-là. Hein. Il y avait juste une compagnie ukrainienne et une partie du 3e pays algérien. Mitrailleurs, mitrailleuses, etc., qui ont libéré Pontarlier. Cette partie-là. Il n'y a pas eu une très grosse bagarre, hein, pas de choses. Hein. Mais enfin, quand même, ça, il y a dû avoir des pertes.
Il y a eu une résistance au fort du Larmont aussi.
Oui, hein. Oui, voilà.
Les Allemands.
C'est ça, voilà.
Un point.
Bientôt l'on racontera une histoire qui arrive à Hitler et à ses mauvais
gars.
Partout en Amérique, c'est vraiment fantastique, toutes les armes que l'on fabrique. Il y a des tanks, des avions, des bateaux, des canons, on ne ménage pas des millions. Quand tout ça sortira sur un air de Java, y aura rien eu de pareil sur un air de Javeille. Qu'est-ce qu'ils prendront les frites sur un air de Javits? Voyez la gueule d'Hitler sur un air de Javert. Oh, voyez ce que fait Roosevelt. déjà, voilà déjà qu'on réussit, ça va de mal en pis. Ils ont les pieds gelés, les nazis.
Fouin, fouin.
Ils s'éloignent de Moscou, ils reçoivent de grands coups. Le climat ne leur plaît pas du tout.
Fouin, fouin.
Dans la neige et le froid, ils sont glacés d'effroi. Et ils se débitent en désarroi. Pour les Boches, ça ne va pas sur un air de Java. De Rostov à Mojaïsk, sur un air de Javisk, les Allemands se replient sur un air de Javille. Hitler en a la trouille sur un air de Javouille. Ah, voyez ce que fait Staline. C'est la plus bête des Java. Hitler avait promis à tous ces braves nazis que la guerre serait bientôt finie. Une fois la France vaincue, les Boches avaient bien cru que l'Angleterre serait vite abattue. On attend la phrase, mon Dieu, ça semble long. Commencent à soupirer les poissons. C'est l'Angleterre toute seule sur un air de Javel qui a tenu tête aux Boches sur un air de Javoche. On parle plus de l'Italie sur un air de Javille. Adieu mon vieux Musso sur un air de Genevaux. Voyez ce que fait Churchill. C'est la plus bête des Javes.
Et voilà. À ce moment-là, vous étiez où? Vous étiez toujours dans les, enfin, un peu en retrait, dans les maquis, près de Champagnol, quoi.
Oui, oui, on était quand même déjà au nord de Champagnol, quand même. Hein.
Et tout de suite après, donc, vous allez remonter vers Montbéliard.
Voilà, on essaye de monter vers Montbéliard, Pontarlier, Montbéliard, tous ces coins-là. Et c'est là, bien entendu, et Valdahon, où on s'accroche. Ça, je vous dis bien, c'était... Il y a eu là, pendant 7 ou 8 jours, alors là, un jour c'était les Allemands, un autre jour c'était nous. C'était disparate un peu dans tous les coins, jusqu'au moment donné, où les Allemands quand même se replient. Se replient sur cette ligne montagneuse. Mais là, sur Écho, tout ça, là, c'est de la montagne, et puis bien équipés. Ils avaient des canons tractés, alors qu'ils se déplaçaient, on pouvait difficilement les repérer. Vous savez, dans la montagne, à l'abri, dans les forêts, dans les trucs comme ça, c'était difficile quand même de les repérer. Et puis, c'était des troupes d'élite, là. Des troupes qui venaient d'Italie, qui étaient menées par Besançon, qui avaient monté le Doubs, et qui montaient cette ligne de front pour protéger l'Alsace. D'ailleurs, la prise de Montbéliard a été assez difficile. Alors nous, bien entendu, on avait dans le dos... On avait la 9e DIC, 9e division d'infanterie coloniale, qui était en panne de tout. Les Sénégalais, en panne de tout, de ravitaillement, de munitions, d'essence, tout ce qu'on veut.
Ils étaient arrivés trop vite.
Les Allemands auraient contre-attaqué violemment, avec des grosses forces, on redescendait. Hein.
Ah oui.
Pas de problème, là. Ça veut bien qu'ils étaient à bout de souffle aussi, ils attendaient des efforts, puis ils avaient certainement la tactique de résister, de faire barrage. Parce qu'ils étaient très bien placés quand même dans les montagnes. Hein, c'est montagneux le coin. Hein, vous connaissez le coin, il est montagneux. Rappel de village sur Écho, j'en ai vu. Hein, moi, j'ai participé à l'attaque. On s'en est vu. Et ils avaient un poste d'observation en haut de l'église. Père des Allemands gonflés. Hein, gonflés. Je me rappelle, les types, on montait avec les chars, on est monté même avec des chars, là. Je me souviens, même on avait des Ukrainiens, ils montaient sur les chars pour l'attaque. Ils ont vite redescendu, hein. Je m'attends de dire. Parce que les Boches, ils restaient dans les trous, puis ils nous laissaient passer, puis ils nous assaisonnaient par derrière. Dans les trous d'obus, ils restaient dans les trous d'obus. Et puis des gars gonflés et sacrifiés, quoi. Hein. Il ne fallait pas compter sur les Américains, parce que nous, c'était essentiellement sur l'armée française qu'on comptait dessus. Hein. Parce que les Américains, eux, d'ailleurs... C'était pas compliqué, hein. Ils rentraient dans un village, il y a un Allemand qui tirait, il se retirait, il mettait 3-4 batteries d'artillerie pour tuer des mouches, hein, c'est tout. Hein. Parce que les Allemands se cachaient dans les caves et du soupirail, ils allumaient les
gars qui approchaient.
Les gars qui approchaient, quoi.
Vous les avez rencontrés, les Américains, à ce moment-là?
Non.
Ils sont intervenus dans ce secteur-là?
Si. Une fois, on est tombé sur une... On était cantonné à Épinoir, avec nos gars. Et toute la nuit est passée, les Américains, on a cru que c'était une... Ils avaient tellement de matériel. On a cru que c'était l'armée américaine qui débarquait. Hein. Il y avait un bonhomme par voiture, hein, à peu près. Toute la nuit, ils ont débarqué comme ça. Et ils sont passés, et on les a plus revus après.
As a buzz bee, and when he plays, he makes the company jump way to the bar. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. Do 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 da da do da da do do. He blows it to the bar. He can't blow a note if the bass and guitar isn't with him. The company jumps when he plays reveille. He's a boogie woogie bugle boy of Company B.
Bon, alors bien entendu, on est resté au front, là. Mais à ce moment-là, Paris avait été libéré. Et on reçoit un délégué d'ambassade de l'URSS, qui est des Ukrainiens, retirés, ils rentrent à Odessa.
Ah oui.
Il faudra les ramener à Marseille. Et c'est à ce moment-là que j'étais chargé par le... Il y avait un capitaine chez nous, il y a un commandant français, un capitaine français... Il me dit, voilà, je ne veux pas descendre, Voilà, je vous donne une mission, je vous fais un ordre de mission, de descendre avec les gars. Alors, vous savez, les gars, à cette époque-là, on a dit qu'ils étaient pour, il y en a qui étaient contre. Mm-hmm. Alors, on a eu des désertions, quand ils ont su qu'on partait. Il a fallu les descendre, on décompte, par chemin de fer, où c'était un désordre absolument total, j'en ai bavé. C'est comme on dit l'autre comme un russe pour cette équipe. Je suis arrivé à Lyon, même j'ai réussi à Lyon à cantonner mon équipe et faire un saut chez moi. Je n'avais pas vu ma famille depuis 7 mois et ils n'avaient aucune de mes nouvelles. Mon frère avait fait de la résistance, avait libéré Lyon, il avait été blessé, mon neveu aussi. Enfin, j'étais ravi à souhait, quoi. Hein. Mmh. Enfin, on a descendu ça sur Marseille. Il explique là.
Et ceux qui avaient déserté, qu'est-ce qu'ils voulaient rester et s'engager avec les.
Avant de déserter, pas retourner en URSS.
Pour retourner en URSS.
Pas retourner en URSS. Vous comprenez?
Donc ils s'engageaient pour le reste de la guerre.
Voilà.
Avec reste, les...
voilà. Et puis alors à Marseille c'était pire parce qu'à Marseille il y avait la Légion étrangère, Fort Saint-Nicolas. Alors la Légion étrangère, ils cherchaient que des mecs, hein, bien fréquemment. On les avait sur le dos. Les officiers, les gens sur le dos toute la journée, on cantonnait au Rove, 15 km de Marseille. On avait les officiers sur les bretelles du matin jusqu'au soir, des gars qui s'engageaient, quoi. Hein, qui s'engageaient, parce que les autres qui retournaient à Odessa, hein, ils étaient nettoyés. Hein. Il n'y avait pas de doute.
Ah oui?
Ah oui,
il n'y a pas eu de pardon.
Hein. Pas de problème. Hein. Alors il n'y en est retourné qu'une partie, et on a amené ça. Au Beaumet même, on les a emmenés au Beaumet, ils ont été embarqués des Beaumet, ils ont été embarqués là-bas, quoi, voilà.
Mais vous n'avez jamais eu de nouvelles de tous ces gens?
Non, alors, par contre, mon copain, l'amiral, il est parti, il a fait l'Indochine. Il a fait l'Indochine, un jour à Yifon, il s'appelait l'amiral, son nom de guerre. Il entend des gars et des chapeaux blancs, l'admiral, il se retourne, il rencontre 3 types, qui était dans les gens étrangères, je crois que c'était à Yifon, quelque chose comme ça. Il dit, j'étais stupéfait de trouver ces 3 mecs en ville comme ça, la vie, quoi.
En même temps, c'était pas anormal.
C'est pas anormal, hein, mais de tomber sur eux, puis qu'ils tombent dessus, quoi. Alors, il y en a qui sont partis, il y en a qui ont déserté, il y en a qui ont fui, je sais pas, qui sont passés n'importe où.
Quand Vietnam s'appelait Indochine, écoutez-moi, il y avait déjà la guerre, écoutez-moi,
des enfants, le cul par terre, tout nu en larmes dans la poussière, pleurer sur toutes les photos dans les journaux, pleurer sur toutes les photos dans les journaux. Y a-t-il 20, 30 ou 100 ans, écoutez-moi, peut-être aussi bien 10 000 ans, écoutez-moi. Il y a toujours eu la guerre et des enfants dans la poussière, on n'a pas écrit leurs sanglots dans les journaux, on n'a pas écrit leurs sanglots dans les journaux. J'ai entendu une maman, écoutez-moi, chanter en berçant son petit, écoutez-moi. Il y a toujours eu la guerre, ton héritage est une terre d'ossements et de trous pleins d'eau. Voilà ton lot, des ossements, des trous pleins d'eau. Voilà ton lot. Elle chantait au bas d'une route, écoute-moi. Hanoï, Saïgon, la déroute, écoute-moi. Son enfant mort serré contre elle, et sa vie en déchire le ciel. Le soleil se couche, il fait beau, et la radio. Le soleil se couche, il fait beau, dit la radio. La radio dit chaque matin, écoute-moi, je pense pour vous, tout va bien, écoute-moi. Pendant ce temps-là, c'est l'enfer, pour le pétrole, l'or, les frontières, des pointillés sur un tableau, des numéros, des pointillés sur un tableau, des numéros. Du nord au sud et d'est en ouest, écoute-moi. La mort, l'absurde font la loi, écoute-moi. Si l'on posait les armes à terre, si tous les hommes étaient frères, les enfants de toutes les couleurs feraient comme un bouquet de fleurs, jaunes et blancs, rouges et noirs, les enfants de toutes les couleurs feraient comme un bouquet de fleurs. Et ça s'appellerait l'espoir.
Et vous, à un moment donné, on vous demande de vous engager
Ah ben bien sûr, automatiquement. Nous, c'était obligatoire. Pas obligatoire, non. Mais automatiquement, les maquis pouvaient rentrer chez eux. Une fois le coin libre. Ou s'engager. Moi, j'étais engagé volontaire, comme entendu. Comme beaucoup d'ailleurs, hein. Enfin, je suis engagé sur terre pour la durée de la guerre.
Et vous avez resté jusqu'en...
Alors, je suis resté jusqu'en décembre... En décembre...
45.
J'étais libéré en décembre 45.
Vous n'avez pas souhaité continuer dans l'armée, quoi.
Non, je n'ai pas du tout l'esprit militaire. Pas du tout.
Ça a été dur, une période de...
Non, ça n'a pas été tellement dur, parce que bon, j'ai eu le pot, j'étais à l'état-major de la 8e région. Quand les Ukrainiens sont partis. Alors j'ai juste fait quelques stages de perfectionnement, d'entraînement d'officier, quoi, hein, d'un mois, deux mois. Et autrement, j'étais au BDOC, le 5e bureau. J'étais au cours du parc à Dijon. J'avais mon studio.
Hein, oui, donc vous n'êtes pas remonté en Allemagne.
Je suis pas remonté en Allemagne. J'allais partir au moment où. À la fin de la guerre, vraiment, à la fin de la guerre, parce que j'allais partir, on m'a dit bon. Et même on m'a offert, je me rappelle quand la libération est venue, mon commandant m'appelle, et il me dit bon, Gaget, si vous voulez, vous partez à Vienne en Autriche. Partez à Vienne en Autriche, à l'état-major, au 5e bureau, vous engagez pour un an seulement, un an supplémentaire, vous engagez pour un an, et vous partez là-bas, et vous. Mon grade d'officier n'était pas homologué. votre grade d'officier sera homologué. Et vous partez là-bas pour un an. Je dis, oui, mais je m'étais marié entre-temps. Mmh. Je dis, j'étais un enfant. Il dit, mais votre femme vous rejoindra par avion. Vous aurez là-bas à Vienne, villa réquisitionnée. Absolument. L'occupant, quoi. Mmh. L'occupant tout, mais... Mmh. J'ai dit, écoutez, mon commandant dans le civil, je suis général. Je prends le civil. Je suis pas un homme d'armée, je suis pas un militaire. Hein, j'ai bien le militaire pour défendre mon pays. Pas de doute, je suis toujours volontaire. Mais proprement dit, non, c'était pas chaud du tout, et j'ai pris la libération.
Je me suis levé, c'était dimanche. À la carriole, j'ai attelé la jument blanche pour m'en aller au marché dans le chef-lieu du comté. Paraît qu'il y avait des généraux à vendre. Mais le soleil écrasait tant la route blanche. La jument s'arrêtait si souvent sous les branches que lorsque je fus rendu, on ne m'avait pas attendu et tous les généraux étaient pendus. Pourtant là-bas, tout au bout du champ de foire, par un coup de chance, il en restait encore un. Il n'était pas couvert de gloire, mais avec un peu de ripolin, il pouvait faire encore très bien. Je l'ai changé contre un cajot de pommes pas mûres, quatre choux-fleurs et une tartine de confiture. Tout ça pour un général, c'était vraiment pas trop mal. Et puis je l'ai chargé dans la voiture. À la maison, on m'a fait des reproches amers. Encore une fois, paraît que je m'étais laissé faire. Un général dans cet état, ça valait beaucoup moins que ça. Et puisque c'était fait, tant pis pour moi. Et puis les gosses ont eu peur de sa moustache. Elle était rousse et ça les faisait pleurer. On lui a coupé d'un côté, mais le chien s'est mis à aboyer. Alors on a laissé l'autre moitié. Il ne fichait rien pour pas salir son beau costume. De temps en temps, il épluchait quelques légumes. Ou réparait l'escabeau, débouchait le lavabo. Mais il ne savait même pas jouer du piano. Pourtant, certains soirs d'été, le général s'asseyait sur la paille et les yeux perdus dans l'immensité, il nous racontait ses batailles. Il nous parlait des Dardanelles quand il n'était que colonel, de la campagne d'Orient quand il n'était que commandant, l'épopée napoléonienne quand il n'était que capitaine, et puis la guerre de Cent Ans quand il n'était que lieutenant, les croisades Pépin le Bref quand il n'était que sergent-chef, et les éléphants d'Hannibal quand il n'était que caporal, les Thermophiles Léonidas quand il n'était que deuxième classe, et Ramsès II la première guerre, quand sa mère était cantinière, et le général, jusqu'au petit matin, déroulait le fil de son immense histoire. Puis il s'endormait sur sa botte de foin. Et nous, sans parler, nous rêvions de gloire. Il restait comme ça chez nous jusqu'à l'automne, sans travailler, sans trouver la vie monotone. Ça nous a même étonné d'apprendre par le curé qu'il avait fait deux jumeaux à la bonne. Et puis voilà que par un beau matin de décembre, il est entré sans même frapper dans ma chambre. Il venait de lire dans le journal qu'on le nommait maréchal. Alors il nous quitte était, c'était fatal. Je l'ai conduit en carriole jusqu'à la ville. On m'a rendu mes choux-fleurs et mes cajots. Et sans émotions inutiles, sans pleurs et sans se dire un mot, on s'est quitté en vrai héros. À la maison, la vie a repris sans aventure. Il n'y a plus personne pour nous chiper des confitures. Le général au bistrot avait planté un drapeau pour la patrie. J'ai payé la facture. Je ne suis plus jamais retourné au marché. Mais quelquefois dans le ciel de la nuit d'été, on voit briller 5 étoiles et ça nous fait un peu mal. On n'a acheté jamais un général.
Sur un banc, il y a un homme qui vous appelle quand on passe. Il a des binocles, un vieux costume gris. Il fume un petit ninas, il est assis. Et il vous appelle quand on passe, ou simplement il vous fait signe. Il ne faut pas le regarder, il ne faut pas l'écouter, il faut passer. Faire comme si on ne le voyait pas, comme si on ne l'entendait pas. Il faut passer, presser le pas. Si vous le regardez, si vous l'écoutez, il vous fait signe, rien, personne ne peut vous empêcher d'aller vous asseoir près de lui. Alors il vous regarde et sourit, et vous le regardez sourire, et vous souffrez atrocement, et l'homme continue de sourire, et vous souriez du même sourire, exactement. Plus vous souriez, plus vous souffrez atrocement. Plus vous souffrez, plus vous souriez irrémédiablement. Et vous restez là, assis, figé, souriant sur le banc. Les enfants jouent tout près de passant, passe tranquillement, les oiseaux s'envolent, quittant un arbre pour un autre. Et vous restez là, sur le banc, et vous savez, que jamais plus vous ne jouerez comme ces enfants. Vous savez que jamais plus vous ne passerez tranquillement comme ces passants. Que jamais plus vous ne vous envolerez, quittant un arbre pour un autre. Comme
et la réadaptation à la vie civile après décembre 45, facile.
Dur, très dur. Parce qu'on avait un autre état d'esprit. Quoi. Vous comprenez, c'était pas. Le maquis, c'était la fraternité. C'était. Les gars, c'était. Le camarade, c'était votre frère, c'était vous-même. L'argent comptait pas. L'argent, là. Zéro, mais il n'était pas question d'en parler. Hein. T'as de l'argent, j'en ai point, je t'en donne, je te prends. Je te... On vivait en. Je dirais. C'était le communisme primaire. Vous voyez, quelque part, voyez. On vivait carrément en dehors de ça. Alors quand vous amenez dans la vie civile, vous avez les feuilles qui viennent de machin, il faut payer ci, il faut payer ça, tout, puis il faut trouver du boulot, il faut repartir, il faut. Moi, ça a été pendant plus de 6 mois, c'était extrêmement dur.
Ah oui, 6 mois.
Extrêmement dur. Extrêmement dur. C'est extrêmement dur pour les.
Mais vous y êtes arrivé quand
même. Oui, ben bien sûr.
Je veux dire.
Bien sûr, on y arrive, il faut bien. Hein. Les nécessités.
Ouais, plus j'étais marié, bien, il y en a qui.
J'étais marié, j'avais un enfant. Bon,
il y a des gens qui vivent mal, et ça peut être l'alcoolisme, ça peut
oui,
être
d'accord, suicide, d'accord,
ça peut être plein de choses.
Oui, c'est ça, d'accord, qui complètement déphasé.
Jamais hein. Comme il faut. Quoi.
J'ai des copains qui étaient complètement déphasés, hein. Qui vivaient après en paria, hein, presque. Hein, par combine, de trucs comme ça, oui, c'était. Moi non, j'étais marié, j'avais un enfant, hein. Hein, et ma femme n'était pas tellement solide pour travailler. Alors, vous voyez, à peu près, bon, c'était pas la joie. Hein. Heureusement, j'avais ma famille encore, bon, tout ça, mais c'était vraiment dur.
Et le regard que vous portez sur tout ça, avec 60 ans de recul,
oui.
C'est, vous recommenceriez pareil.
Oui, demain matin, oui. C'est une des plus. Vous savez, dans ces cas-là, on a eu vraiment des moments de souffrance durs. Mais ça compte pas. C'est effacé. Ça s'efface. Chez moi, ça s'efface, je pense que comme moment de bonheur que j'ai eu dans cette période-là. Et puis cet esprit que l'on avait, quoi, de combattre pour un même idéal, pour une même cause, ça, c'était quelque chose qui me prenait la tête entièrement, à 100%.
Et de la déception après, quand les politiques, les politicards, on va dire, sont revenus à leur place.
Oui, ben bien sûr.
Vous n'avez peut-être pas eu la France dont vous rêviez après la guerre.
Ben non, non, absolument pas ça. C'est pas ce qu'on rêvait, hein. C'est pas de problème. On rêvait, c'était la fraternité, l'entraide, c'est tout, voilà ce qu'on avait, hein, de vivre normalement. Ce qu'un homme doit vivre. Ce qu'un être individu, oui, pas sur Terre pour vivre. Pour vivre heureux, ou à peu près heureux, ou s'entraider les uns les autres. Alors que là, c'était l'égoïsme, c'est le profit de toi, on te. Non, ça c'était.
Et peut-être à la différence des déportés, vous avez pu en parler assez vite après de votre expérience de maquis, ou vous
pas
avez eu aussi une période
pas de, tellement, pas du
de repli.
De repli, pas tellement. Ah, oui. On est rentré dans la vie, après dans la vie civile, quoi, la vraie vie, la vie actuelle. On est rentré dans notre vie, et n'en parlait même pas tout de suite, mais même pas tellement les enfants, même après.
Il y a un moment où vous avez commencé à avoir envie de.
Ah oui, sur le tard, comme tous. Je revois dans l'association, je fais partie, bien entendu, je suis à l'ANAC, hein, je suis vice-président de l'ANAC. À Lyon, là, le département. Mais par contre, j'appartiens aussi à un groupement de maquis du Haut-Jura, qui est différent. Il en reste encore quelques-uns. Quoique notre groupe à peu près franc, où on était 30 à 40, il en reste, on est 3. Il reste 3. Et parce que toutes les années, pour Pentecôte, on fait un pèlerinage sur les tombes, sur les endroits, etc. Absolument tout. Puis on se retrouve pour des copains. Enfin, ceux qui restent. Et on ne parlait pas. C'est au bout de peut-être de j'allais dire, moi, de 20 ans.
20 ans.
que commencer à réaliser. Et je vois dans le groupement que j'avais pendant... Maintenant, bien entendu, ça se réduit par la force des choses, mais ça se réduisait quand même. Je vois ces maquis du Haut-Jura, pendant il y a une vingtaine d'années, on était un certain nombre, et puis ensuite ça a augmenté au contraire, à rejoindre l'association. La famille, tout le monde, ça a augmenté. C'est amusant, hein, c'est sur le tard.
Oui, c'est sûr.
Sur le tard, et je vois tous mes camarades, c'est la même chose.
Ça vient de, après la guerre, on ça parle. Vient de l'extérieur qui prêtait une oreille plus compréhensive ou intéressée, ou ça vient des gens eux-mêmes qui ne pouvaient pas en parler jusque-là? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un moment où la société s'intéressait plus à se passer?
Oui,
à un moment donné, en 1945, les gens avaient d'autres soucis personnels.
D'autres soucis, chacun est rentré dans sa vie. Hein, ouais. Dans sa vie. Tandis que, là, justement, c'est ça, c'est plus tard après que les gens veulent revenir, rencontrer, etc. Par exemple, quand les gens approchaient de la retraite, énormément, hein, à ce moment-là, ils étaient libérés de leurs soucis ménagers, ils n'avaient plus de gros problèmes. Voilà, bon, ben, il faut penser aux choses. Et puis, au passé aussi, il y en a beaucoup qui sont revenus. Les gens sont revenus comme ça. Autrement, bon, c'était la vie active, chacun son boulot, chacun voulait son business, se débrouillait, etc.
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Mais quand les hommes vivront d'amour, qu'il n'y aura plus de misère, peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons morts, mon frère. Nous qui aurons au mauvais jour, dans la haine et puis dans la guerre, cherchez la paix, cherchez l'amour, qu'ils connaîtront alors, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. De la sagesse ici-bas, c'est le prix. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère.
Quelqu'un dont on n'a pas parlé, je ne sais pas si vous l'avez creusé, c'est Roman Petit qui a joué.
Roman Petit, oui.
Vous n'étiez pas dans les mêmes groupes, là.
On n'était pas, non, c'était le patron.
C'était
le patron parce qu'à un moment donné, il a pris le contrôle des maquis du Jura à partir d'avril 1944. Avant, c'était le service Périclès, mais c'est lui qui commandait tout.
À partir d'avril 1944,
il a tout pris.
Et avant, il avait son maquis dans
l'Inde. Voilà, exactement.
Et vous l'avez rencontré, vous?
J'ai vu une fois ou deux, oui.
Comme ça, mais pas de...
Une fois ou deux. Il y a eu le fameux défilé Oyonnax.
Vous étiez dans le coup, là?
J'étais pas dans le coup, j'étais dans les protections.
dans le village.
Non, pas dans le village, non, pas, il y en a, non, mais sur les routes, pour barrer toute éventualité,
ah, oui,
au renfort de
la police. Vous étiez sur place quand même.
Voilà, t'es sur place, mais pas au défilé. T'es chargé d'assurer la sécurité.
C'est presque étonnant qu'il n'y ait pas eu de répression.
Non, là, c'est assez bizarre. C'est vrai, il n'y a pas eu de répression directe.
Il y aurait pu.
Il y aurait pu. Là, c'est véritablement, c'est... ils avaient des trous, eux aussi. C'est passé à travers, comme ça. Pourtant, c'était assez retentissant, quoi. Des gars qui défient l'armée. Non, il y en a quand même,
Dans le moment, ça c'est sûr. Maintenant, bien sûr, c'est emblématique.
Oui. Oui, bien sûr.
Mais en 1943, le 11 novembre, les gens à Lyon, on l'a su.
Non, je pense pas à Lyon.
Hein, ça a peut-être pas été.
Non, ça n'a pas été sur Lyon, mais.
Autour de Yona.
C'est resté à Yona. Non, c'est pas descendu à Lyon.
Il ne faut pas désespérer, on les sauvera. Vous arrêtez de résister. N'oubliez pas la lettre V. Écrivez-la, chantonnez-la, bébé. Sur les murs et sur les pavés, faites des V. Mais vous pouvez faire en effet les doriforts. Et sans remords, et sans danger, vous sifflerez et chanterez bébé.
Oui, vous savez, il y a des choses bizarres qui se produisent dans la guerre. Moi, toutes les opérations que j'ai eues, je pense que la chance que j'ai eue, c'était... Mais je ne devrais pas être là, c'est pas normal. Et les coups durs que j'ai eues, la chance, le pot.
Oui, il me semble que vous avez eu beaucoup de chance, puis vous l'avez provoqué, la chance, parce que le nombre de déplacements que vous avez fait
en train,
vous auriez dû vous faire prendre 100 fois.
Mais 100 fois.
Vous étiez contrôlé.
Jamais été contrôlé dans le train.
Ah oui.
Jamais été contrôlé dans le train.
Vous aviez une bonne tête, quoi.
J'en sais une bonne tête, c'est rien. Non, jamais. Puis j'avais une confiance en moi, quelque chose d'inimaginable. Je vois les gosses, d'ailleurs, je fais des témoignages, les gosses sont très intéressés. Hein. C'est fou.
Oui.
Ah, c'est fou.
C'est bien.
Moi, quand on m'a demandé de faire ces témoignages, j'ai dit, tu vas te faire chevaler des gamins de 16, 17 ans, etc. et tout. Des images. Pas un murmure, ni un geste, ni quoi que ce soit, pendant une heure d'exposé, une heure et demie. Et des questions, alors là. Les questions, ça y va.
C'est bien parce que vous, beaucoup, c'est la déportation. Bon, il y a un côté dramatique, souffrance. Vous, c'est la lutte.
C'est la lutte. Voilà, alors ça les passionne, le maquis, ça les passionne. Ça, il n'y a pas de doute. Mais c'est marrant, des gosses. C'était à la Croix-Rousse, c'est les gosses de 5e, des CM2 qui m'ont donné. J'étais à la Croix-Rousse, j'ai fait deux exposés là-haut. Les gamins émerveillés, les profs aussi. Parce que le prof me dit, nous, on a beau leur expliquer, selon les livres ou autre chose, c'est pas la même chose.
C'est pas pareil.
Tandis que là, vous, c'est vivant.
Oui, c'est vécu.
Et puis c'est un ancêtre qui... Pour eux, c'est...
Non, mais vous êtes les derniers qui pourraient en parler.
Voilà, vous comprenez. C'est ce problème-là qui les subjugue quand ils sont très, très, très intéressés. Alors, bien entendu, maintenant, on est dans 2-3 encore qu'on se connaît, quoi, à peu près tout. Mes bons copains, ils sont tous morts. Hein. Ouais. Après la bagarre. Après la bagarre, j'en ai eu très peu de morts au combat avec moi, vraiment des intimes. Blessés, oui.
C'est aussi que vous étiez bon, si on peut dire.
J'avais une chance. Puis non, puis j'ai toujours pensé, ce que me posent souvent les gamins la question, est-ce que vous avez pensé que vous n'avez pas été tué? Jamais. Mais jamais il m'est venu à l'instant l'idée que je pourrais être, que je pourrais tuer.
Ah, oui.
Je dis, maman, je me pose la question, je dis, mais t'en es sûr, tout ça, etc. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Mmh. Moi, mes morts, exactement.
Et arrêter, non.
Arrêter non plus. Arrêter non plus.
Pas d'angoisse particulière. Et
aucune angoisse. Aucune angoisse. Parce que d'abord, les gars angoissés, hein, ils vont pas loin.
Ah oui.
C'est terrible, ça. Hein. C'est l'angoissé, bon, dit-il, voilà, je vais y rester. Très souvent, c'est le cas. Mais moi, jamais, mais jamais, 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 jamais. Un pot, pas que je suis plus courageux qu'un autre, mais toutes mes missions, je partais avec joie. Pour moi, ça, par contre, je n'aimais pas rester dans un camp. Je n'aimais pas attendre l'attaque. J'aimais attaquer, mais pas d'être surpris par l'attaque. Souvent des camps cernés, le matin, puis le matin, papa, on réveille tout le monde à coup de fusil mitrailleur. Ça, c'était pas mon job, ça. Hein. Moi, mon job était d'être au devant, d'être au milieu, et puis de faire mon petit boulot au milieu. J'ai eu un pot qui dépasse l'imagination. C'est vrai.
Bien, je vous remercie.
L'insurgé, son prénom c'est l'homme, qui n'est plus la bête de somme, il obéit à la raison, et qui marche avec confiance, car le soleil de la science se lève rouge à l'horizon. Devant toi, misère sauvage, devant toi, l'insurgé se dresse, le fusil chargé. On veut le voir aux barricades, descendra avec les camarades, riant, plaquant, glissant sa peau, et sa prunelle dissimule, s'allume au splendeur de l'idée. Devant toi, pesant esclavage, l'insurgé se dresse, le fusil chargé. En combattant pour la commune, il savait que la terre est une, qu'on ne doit pas la diviser, que la nature capitale une brousse où tous ont le droit de prier. Devant toi, misère sauvage, devant toi, pesant esclavage, l'insurgé se dresse, le fusil chargé. À la bourgeoisie écœurante, il ne veut la bande, combien de milliards tous les ans, c'est sur nous, c'est sur notre viande, qu'on est fait sainte et dividende, ouvriers mineurs paysans. Devant toi, misère sauvage, devant toi, pesant esclavage, l'insurgé se dresse, le fusil chargé. Il comprend notre mère aimante, la planète qui se lamente sous le joug individuel. Il veut organiser le monde au lieu de sa mamelle ronde, coule un bien-être universel. Devant toi, misère sauvage, devant toi, pesant esclavage, l'insurgé se dresse, le fusil chargé.
Ainsi se termine cette dernière émission d'une nouvelle série de trois consacrée au résistant Roger Gaget. Cette troisième émission avait pour sujet certains épisodes de la libération en Franche-Comté à fin août 1944 et ce que fut l'après-guerre pour Roger Gaget, ainsi que le regard qu'il porte aujourd'hui sur toute cette période. Vous avez pu entendre successivement au fil de cette émission les illustrations musicales suivantes. Un poème à l'Ukraine par les chœurs de l'armée rouge, signé Kolyushev et Alexandrov. Puis c'était Catherine Sauvage qui, sur l'air de la plus basse des Java, chantait les paroles de Maurice Van Mops. Puis c'était un extrait du Boogie Boogie Bugle Boy de 1944 par les Andrews Sisters, une composition de Prince et Ray. Puis c'est Anne van der Lorp qui interprétait sa composition Quand Vietnam s'appelait Indochine. Ensuite, vous avez entendu deux morceaux successivement. Le Général à vendre de Francis Blanche sur une musique de Pierre Philippe, interprétée là par Marc Augeret. Et puis, Le désespoir est assis sur un banc de Jacques Prévert, mis en musique par Joseph Cosma, dans l'interprétation de Germaine Montero. Ensuite, c'est Cora Vauquer qui chantait la chanson de Raymond Lévesque, Quand les hommes vivront d'amour. Vous avez entendu à nouveau un texte de Maurice Van Mop, la chanson des V, interprétée par les Octaves sur la musique de Beethoven. Et enfin, le groupe 17 interprétait L'insurgé d'Eugène Potier pour les paroles, de Pierre Desjeter pour la musique. Nous remercions Roger Gaget d'avoir bien voulu accorder cet entretien à Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, et plus particulièrement à l'intérieur de celle-ci, à l'émission Bistantlac. Bonsoir.
Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est Bistantlac. C'est pas de la rengaine à gaver les enfants, pas des tubes que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est Bistantlac. Qu'une chance qu'on les vise, mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance en main mètre de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redisent, ils noircissent le printemps. Qu'une chance qu'on les vise, mais on les claque. Thank you.
la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est distant que c'est pas de la rengaine à gaver les passants, pas des tubes que reprennent les gros guerres d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est distant que le printemps, qu'une chance qu'on les visse et qu'on les claque. Quand le fascisme avance sans même être de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se raidissent, noircissent le printemps, qu'une chance qu'on les visse, mais on les claque. On se bise.